Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Antiquissimo, chers auditeurs, chères auditrices, j'aurais dû commencer par les auditrices, reçoit Marco Vespa, dont le nom sonne délicieusement italien. On entendra son accent d'ici quelques secondes. Et en plus de cet exotisme de l'accent, nous allons en plus partir loin, puisque nous dialoguons avec Marco et Vespa qui se trouvent en direct depuis Jérusalem. Alors déjà, je vous dis bonjour Marco.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Et alors, c'est un plaisir de faire votre connaissance, les auditeurs vont aussi se régaler. Vous êtes un philologue classique, un anthropologue aussi passionné de l'Antiquité, un chercheur infatigable. Alors, vous avez été, alors évidemment, je peux me tromper sur mes renseignements, vous allez me corriger si c'est le cas. Vous avez été formé à l'université de Sienne, donc bien dans votre Italie natale. Puis ensuite, je ne sais pas si entre-temps il y a eu d'autres choses, mais j'ai noté que vous étiez ensuite passé par l'université de Fribourg en Suisse. Vous avez mené un projet, et ce projet justement, nous allons en reparler beaucoup, un projet autour des Jeux. Et vous voici maintenant, alors encore une fois, j'ai peut-être sauté des étapes, à Jérusalem. Vous travaillez dans le cadre d'un projet européen Atlomi, je ne sais pas s'il faut prononcer ainsi, sur les idées anatomiques des auteurs grecs et anciens. Est-ce que ce que j'ai dit pour l'instant est correct?
Oui, tout à fait. Oui, c'est correct.
Alors donc, je commence par la fin, c'est-à-dire là, en ce moment où vous êtes à Jérusalem, vous travaillez sur les idées anatomiques des auteurs grecs et anciens, je dis. On vous a invité pour collaborer à quel genre de projet? Qu'est-ce que vous allez faire?
L'intérêt pour ma participation à ce projet à Jérusalem, en fait, est lié à mon intérêt principal d'étude qui porte sur les animaux de l'Antiquité, aussi bien du côté, disons, de l'étude des relations entre communautés humaines et animaux, et aussi bien dans les textes littéraires que dans dans les textes plus, disons, zoologiques, disons comme ça. Mais aussi, je me suis intéressé au savoir zoologique, donc comment, disons, un intérêt plus proprement, disons, scientifique sur l'animal, sur sa morphologie, sur son anatomie, sur ses comportements, s'est développé. Bien évidemment, j'ai travaillé beaucoup sur Aristote et sur les traités biologiques d'Aristote, notamment l'histoire des animaux et les traités sur les parties des animaux. Et c'est pour cette raison donc, que j'ai été engagé dans ce projet européen qui porte, comme vous l'avez dit, sur la reconstitution et l'étude du développement des premiers concepts liés à l'histoire du corps et de l'anatomie. Et donc, c'est pour ça que je m'occupe au sein de ce projet, au rapport, disons, entre le discours anatomique d'Aristote dans les traités biologiques, donc comment Aristote a conçu ses idées sur le corps, sur la physiologie, à partir d'une enquête comparatiste, disons comparative, entre corps humain et corps animaux. Des autres animaux. Et donc, c'est pour ça que je suis à Jérusalem. Et là, je travaille notamment donc, sur différents projets. Et en fait, je me suis concentré surtout dernièrement sur la mise en discours de la part d'Aristote de la nécessité de pratiquer la dissection, la capacité, disons, de l'homme d'entrer dans l'analyse du corps animal. Et donc, comment Aristote justifie ce processus scientifique qui n'était pas tout à fait évident. Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir la démarche rhétorique d'Aristote pour justifier cette pratique, expérimentale, si j'ose dire.
Oui.
Et voilà, donc c'est dans ce cas, dans cette lignée, disons, mes intérêts pour les animaux et pour Aristote en particulier, que je suis dans ce projet qui porte notamment sur la médecine antique et sur l'histoire de l'anatomie.
Et tandis que je vous écoute, je me dis que ça beau être vieux comme le monde, ça paraît étrangement moderne en même temps, cette manière de chercher, j'allais dire, hein, d'Aristote, puis ensuite vous-même par rapport à Aristote. Alors la question que je vais vous poser maintenant, c'est sur vos études et votre formation, mais j'en pose une autre tout de suite avant, c'est savoir comment vous avez acquis cette maîtrise parfaite du français.
Oui, mais bon, disons que je l'ai... C'est un fait culturel. En fait, j'ai toujours été passionné par les cinémas et la littérature. Et donc, voilà, c'est venu un peu naturellement. Disons que j'ai de l'intérêt pour la culture française et pour tout ce qu'elle représente. Et après, ça a été aussi un outil de travail. Donc, j'ai été amené à travailler avec des chercheurs français de plus en plus. Et donc, j'ai un peu affiné mon français, qui était un français d'école. Et avec un petit séjour à Nice, où j'ai rencontré mon directeur de thèse, Arnaud Zucker, qui travaille à Nice, au CEPAM, à l'Université Côte d'Azur.
Oui.
Et donc, avec un Erasmus et après un co-tutelle de thèse, j'ai pu, disons, améliorer mon français, qui n'est pas du tout parfait, donc,
Bah,
mais voilà,
écoutez,
je cherche à l'améliorer.
je suis extrêmement admirative et je vous remercie de votre intérêt pour le français et notre culture. Alors, vos études et votre formation en Italie, est-ce que d'emblée, elles vous avaient mené à l'Antiquité? Vous étiez sur un bon terrain, ça, il faut bien le dire, mais est-ce que c'est tout petit que vous êtes versé dans cet amour pour l'Antiquité?
Et oui, disons que j'ai toujours eu un intérêt pour surtout l'Antiquité romaine. Je suis né à Rome, donc j'étais tout petit, j'ai commencé, disons, à explorer ma ville, mes musées, etc. Mais disons que je n'avais pas pensé immédiatement de rejoindre, disons, l'équipe des classicistes, parce que j'avais en fait en tête d'autres parcours professionnels, peut-être d'autres passions. Mais c'était au lycée, en fait, que j'ai rencontré une enseignante de Rome qui, à ce moment-là, travaillait en équipe avec l'université de Sienne, où il y a encore une université et un groupe de classicistes, de philologues, d'historiens qui pratiquaient une étude de l'Antiquité très, très hétérodoxe, si j'ose dire,
Oui.
c'est-à-dire très influencée par l'anthropologie culturelle, la sémiologie, la linguistique historique aussi. Et donc tout ça m'a fasciné. Je me souviens que une des premières lectures que j'ai faites au lycée ont été, disons, les essais de Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet. Et donc, ils m'ont, disons, amené vers cet univers-là. Et à Sienne, j'ai rencontré avec l'école de Maurizio Bettini, qui est un latiniste qui a toujours travaillé dans une approche d'anthropologie historique du monde romain. Et donc, c'est un peu le début de mon histoire. Donc, j'étais fasciné par cette approche, qui était à la fois rigoureux et classique, mais ouvert, disons, aux apports des sciences sociales et humaines.
Ben, c'est vraiment passionnant. En ce qui me concerne, j'ai entendu parler de vous lors d'un colloque à Montpellier consacré aux oiseaux et où j'avais découvert avec un intérêt réel l'importance des oies. Et je m'étais interrogée sur le jeu de l'oie et savoir si justement ce jeu de l'oie avait quelques racines anciennes. Il s'avère que non. Mais du coup,
Non.
conversant avec donc la personne qui organisait ce colloque, Christophe, il m'a parlé de vous et de votre travail énorme sur le jeu, justement, alors pas le jeu de loi, mais le jeu. Et du coup, j'ai eu envie de faire votre connaissance et de m'intéresser à vos publications. Alors, vous-même, comment avez-vous, donc vous avez parlé des animaux tout à l'heure, de votre construction autour de la culture antique et le jeu, alors comment êtes-vous venu à vous interroger sur la place du jeu, alors jeu, le jeu avec lequel on joue, le jeu, le jouet, tout ça c'est un petit peu mêlé. Comment vous y êtes venu?
Oui, disons que là aussi, les animaux jouent un rôle important dans le sens que j'ai été invité à un séminaire organisé par Véronique Dazen, qui est
Oui.
une archéologue et anthropologue des images qui travaille en Suisse et qui a été, disons, qui a mené ce grand projet européen sur le jeu qui s'appelle Locus Ludi. Et donc, elle m'avait invité à donner un séminaire, c'était le tout début de ce projet, sur le combat de coqs. Et donc, elle m'avait proposé, disons, d'unir un peu mes intérêts pour les animaux et la question qui était une question centrale du projet, c'est-à-dire les jeux. Bon, il
Mais
faut savoir qu'il y a,
oui, je vous en prie, allez-y.
et il faut savoir qu'il y a pas mal de mots pour dire, disons, pour représenter dans le monde grec ancien le
Oui.
combat de coq, donc ce combat qui, certaines fois, il est appelé agone, donc on pourrait dire combat, confrontation,
Oui.
contest,
Concours, oui.
mais oui, concours, mais dans certaines sources, surtout à l'époque classique, surtout si on regarde Platon, la République, mais pas seulement, ce combat des coqs est appelé paideia. Et paideia, c'est le mot, disons, le plus générique pour dire jeu dans l'Antiquité grecque. Et donc, je suis passé, disons, encore une fois par les animaux, parce que ce qui m'intéressait, c'était véritablement de voir comment, à un certain moment de l'histoire culturelle grecque, surtout à l'époque impériale, certains auteurs, notamment Lucien, mais pas seulement, aussi Philon d'Alexandrie, mais
Oui.
aussi Hélien de Préneste, ont conçu, ont pensé le combat de coq comme quelque chose de plus qu'un jeu. Donc, comme par exemple une sorte d'école pour la jeunesse athénienne, pour, disons, apprendre des coqs, des animaux, disons, qui se battent jusqu'à la mort d'un des deux, une certaine idée de courage, une certaine idée de mise en danger, disons, de sa propre vie pour la ville, pour la police.
Donc, une
Or,
sorte
tout ce.
de jeu initiatique, finalement.
Oui, exactement, et qui devait, disons, susciter une sorte d'émulation, d'esprit d'émulation pour les jeunes gens athéniens. Oh, il faut savoir que tout ça au moins ce que j'ai cherché à montrer, est une construction idéologique d'époque impériale. Parce que si on regarde les récits d'origine du début du combat des coqs, donc qui sont rattachés notamment aux guerres perses, donc
Aux
au
guerres
début du
médiques, oui.
5e siècle. Au guerre médique, exactement. Et tout cela ne se retrouve pas du tout dans les sources classiques. Donc, vous n'avez rien de ça chez Thucydide, chez Hérodote, chez Platon, chez Xénophon. Et Platon est le seul à parler du combat des coqs d'une manière plutôt explicite, mais il fait aucune référence à cette idée d'une émulation, d'un esprit, disons, d'émulation, de courage, etc. Et surtout, il appelle jamais le combat des coqs agone. Il n'appelle jamais le combat des coqs comme paideuma, donc comme enseignement pour les jeunes gens. Pour lui, c'est tout simplement une activité ludique qui pouvait avoir certainement une importance dans l'éducation des jeunes gens, mais n'avait pas du tout cette valeur idéologique qui avait été rajoutée par les auteurs d'époque impériale pour construire une certaine image idéalisée de l'Athènes classique.
Eh
Donc je
oui.
suis parti de là. Et tout s'est un peu enchaîné parce que je suis entré à faire partie de ce projet Locus Ludi. Et donc, je me suis intéressé à pas mal de choses, notamment une des sujets que j'ai abordé, qui est encore au centre de mes intérêts, ce sont les récits des origines des jeux. Donc,
Eh
comment
oui.
la tradition culturelle grecque a pensé l'introduction des jeux, des pratiques ludiques, des objets ludiques. Et dans l'histoire, si l'on veut. Et donc, je me suis intéressé à la figure de Palamède, par exemple,
Oui.
qui est considéré le héros qui introduit, qui invente les jeux de plateau et les dés.
Alors oui, parce que en fait la difficulté qu'on a en dehors du fait, alors certes on a des, vous allez en reparler après, beaucoup de sources archéologiques et de plus en plus, beaucoup d'images aussi, mais pas de règles du jeu. Et moi qui me suis beaucoup intéressée à traduire Martial, je vois qu'il fait souvent allusion à des jeux et pour lesquels il y a certains mystères parce que il fait allusion à des règles que nous ne connaissons pas, parce que il n'y a pas comme chez nous, me semble-t-il, de règles du jeu, justement.
Oui, c'est tout l'intérêt en fait de ces recherches, parce que bien évidemment, ce qui nous reste de l'Antiquité grecque et romaine est très peu. Et donc, il y a des enjeux, disons, je pourrais dire méthodologiques, c'est-à-dire que on n'a pas de règles explicites dans les sources qu'on a, surtout à l'époque archaïque et classique grecque. Mais on a comment dire, des jeux métaphoriques, des allusions, disons, des citations de certains jeux qui impliquent bien évidemment une connaissance répandue parmi les auditeurs d'une certaine composition littéraire. Donc, ces gens-là connaissaient les règles du jeu, n'était pas important de les expliciter, mais les
Exactement.
jeux littéraires, disons, les symboles, la métaphore, étaient basés sur ça. Et donc, comment faire pour récupérer ce savoir? C'est très compliqué et on a des possibilités. La possibilité la plus, disons, explicite et je dirais aussi une des plus économiques, c'est d'aller regarder à l'époque impériale chez les sources lexicographiques. En particulier, il y a un auteur très important pour reconstruire, disons, les règles de jeu qui est Pollux.
Oui.
Pollux, qui est un grand lexicographe, maître de rhétorique de l'époque impériale romaine, donc 2e siècle après Jésus-Christ. Et donc, lui, il écrit un onomasticon, qui est en fait une sorte de dictionnaire de l'Antiquité, et il consacre plusieurs chapitres du livre 9 de cet onomasticon, de ce lexique, à, disons, faire une sorte d'archéologie lexicographique, si l'on veut, des jeux. Et donc, pour chaque jeu, pour la majeure partie de ce jeu-là, il donne aussi des règles. Donc, il nous dit, par exemple, qu'on jouait avec 2 ou 3 dés, 2 ou 3 osselets, que par exemple, certaines combinaisons de jeux de dés pouvaient avoir ce nom-là ou ce nom-là. Et il nous donne aussi des règles très, très basiques des jeux de plateau. Donc, on peut aller puiser, disons, dans ces sources, mais avec le grand problème que ces sources-là datent du deuxième
Eh oui,
siècle de notre ère.
c'est
Et
ça.
donc là, il y a aussi tout un décalage, disons, chronologique, mais aussi d'une certaine construction de l'Antiquité grecque faite par les auteurs de l'époque impériale, qui est toujours importante. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, cette idée
Eh bien,
d'une construction de la mémoire.
exactement. Et puis, ça nous emmène très, très loin. Et avant d'aller aussi loin, réfléchir sur les types de jeux, mais vous avez déjà parlé des dés, par exemple, des jeux de plateau, et faire la différence peut-être, parce que quand on pense jeu, on pense enfant. Et là, visiblement, ce dont nous parlons, c'est plutôt pour des adultes. Nous allons y revenir après une petite pause musicale. Et on a beaucoup encore à se dire. Je ne sais pas si une émission suffira. À tout de suite.
Laura, Laura, lequel de nous l'aura? Laura, Laura, Laura l'aura pas. On l'a joué aux dames sur un grand damier. On l'a joué au drame sur un grand larmier. La maligne n'avait cure de nous partager sa peau et ses joues de pomme mûre en 4 morceaux. Laura, Laura, lequel de nous l'aura? Laura, Laura, Laura l'aura pas.
Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, et nous avons la grande chance de converser avec Marco Vespa, qui, depuis Jérusalem, nous parle de l'Antiquité comme si on y était. Et nous sommes en train d'essayer de comprendre la complexité de ce monde du jeu. Alors, c'est jeu JEU, même si lorsque on va pouvoir parler peut-être des songes, des jeux et des rêves aussi, on pourrait faire la confusion avec le jeu JE. Mais nous n'en sommes pas là et nous revenons à ce projet et à cette anthologie que vous avez tentée pour essayer de répertorier sur un site avec un succès formidable des tas de nouveautés dans le domaine du jeu. Des tas de choses que on aurait pu apprendre en confrontant diverses sources. Quels sont les jeux qui vous semblent les plus importants dans cette antiquité? Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est pas forcément les jeux pour enfants, hein, les jeux pour adultes aussi.
Oui, tout à fait. Et disons que il y a d'un point de vue, disons, de la perception, disons, que les Grecs, ou quand même que les sources que nous avons avaient de l'importance du jeu, je dirais que le jeu de plateau, et en particulier ce qu'on appelait dans l'Antiquité grecque Peseia ou Peteia, donc le jeu de pion, Pesos ou Petos, c'était le mot grec pour indiquer le pion. Et donc ce jeu de plateau avec des pions qui était très 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 similaire, disons, au jeu de dames d'aujourd'hui, et qui avait différentes dénominations. Une dénomination qu'on a pu reconstruire, c'est le jeu de police, donc le jeu de la ville, si vous voulez. Et c'est un jeu exactement c'est un jeu de plateau qui n'est pas du tout dépendant du dé. Donc c'est un jeu de stratégie complet, et comme le jeu de dames, en fait, où tous les pions avaient une valeur égale. Donc c'est pas du tout comme les jeux d'échecs où chaque pièce a une valeur particulière et à laquelle on attribue, disons, des capacités, aussi des mouvements particuliers. Pas du tout. Donc dans les jeux de police, le jeu de PTA, en fait, tous les pions avaient la même valeur, et c'était véritablement un jeu où on pouvait exercer ses capacités, disons, sa vertu dans l'art stratégique aussi. Vous pouvez imaginer, disons, les jeux métaphoriques qui sont faits entre un jeu, disons, de plateau comme ça, et la capacité d'un chef de guerre, d'un chef militaire.
Alors,
Or, ce jeu-là, oui.
allez-y, allez-y.
Oui, donc ce type de jeu-là, donc ce jeu de plateau, PTIA, ou aussi appelé police, est un jeu de plateau qui est attribué, disons, qui est attribué à l'inventivité de ce héros de la guerre des Troie,
Ah,
Palamède.
voilà,
Donc,
justement,
Palamède,
je voulais qu'on
oui.
rappelle aussi les origines de ces dés, origines qui ont rapport aussi, je crois, avec les soldats, avant de
Oui,
devenir des jeux.
exactement.
Hein, l'origine est assez amusante à raconter aussi.
Oui, tout à fait. Donc, disons que dans la représentation que les Grecs ont des origines des jeux, en particulier des jeux de plateau, et donc des jeux de pions, etc. Et disons, l'introduction de ces jeux est liée à des moments de crise, à des moments d'impasse lors de la guerre des Troie. Il y a
Oui.
différentes traditions, on n'a pas le temps d'en parler, mais disons, généralement, il y avait un moment de crise à l'intérieur de l'armée grecque avant le départ pour Troie, donc à Aulis, en Grèce, en Béotie, où, selon d'autres témoignages, une fois arrivé en Troie, donc une fois arrivé, disons, en Asie mineure, l'armée aurait été, disons, dans un état d'impasse. Donc, il y aurait eu des conflits liés à une famine et à une pestilence qui aurait été envoyée par les dieux. Donc, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de possibilité d'avancer dans la guerre. Et dans cette condition d'impasse, que certaines sources appellent argia, donc littéralement l'absence de travail, l'absence d'action, il commence à avoir, disons, des soldats ou des contingents qui prônent pour la mutinerie. Donc, ils veulent rentrer chez eux et ils ne veulent plus combattre. Et donc, c'est là l'importance de ce héros Palamède qui descend, disons, de la lignée du dieu Poséidon et qui, à un certain moment, invente ou introduit dans l'armée grecque, dans l'armée achéenne, les jeux de plateau, donc les jeux de pions et les dés.
Donc, du
Et
coup, le jeu
différentes
devient une
sources.
sorte de survie parce qu'il faut oublier la famine,
Exactement.
oublier l'ennui, oublier
Oui.
l'angoisse.
Exactement. Et on a des fragments de tragédie grecque où exactement le jeu est décrit comme akos, donc comme remède, comme une sorte de pharmacon,
Oui.
donc un véritable remède pour une maladie, ce qui est justement la maladie de la mutinerie. Et il y a aussi quelques siècles plus tard, mais très important, le travail antiquaire de Varron, les grands auteurs latins, qui nous confirment aussi cette tradition mythographique et nous dit en fait que Palamède, en inventant, disons, les jeux de plateau et les jeux de pions, avait en fait sauvé, avait rendu possible la guerre des Troie. Il avait empêché une séditio, donc
Oui.
une mutinerie de la part des contingents achéens. Donc
Et
c'est très important, il n'est pas cité dans l'Iliade, mais c'est un sujet, disons, de l'époque homérique aussi.
alors, je note aussi, même si c'est un grand bond dans le temps, que chez Tite-Live aussi, on trouve de ces récits étiologiques où on raconte effectivement que ce sont lors des crises et lors de peste. Alors, attention que peste n'a pas forcément le même sens qu'aujourd'hui, mais c'est une maladie, une épidémie. Eh bien, on
Oui.
joue pour amadouer les dieux et on joue pour s'amadouer soi-même finalement.
Exactement, exactement. Et Tite-Live utilise ce mot de placamen, donc cette idée, disons, de réjouir les dieux. Et en fait, les jeux, les ludi romains, les ludi scéniques, les spectacles, sont considérés comme des mises en scène pour amuser, disons, les dieux. Et en amusant les dieux, il y a aussi, bien évidemment, une mise en fiction, une mise en spectacle qui sert aussi, comme vous l'avez dit, à garder la communauté unie et à éviter, disons, que d'autres aspects plus sombres, comme le désir de, disons, de mutinerie ou le fait de dissoudre les liens sociaux, puissent émerger. Donc, il y a cet aspect très important qui est un aspect, disons, un peu omniprésent. Il y a aussi, par exemple, chez Hérodote, la même chose, il y a un récit sur la Lydie et les Lydiens, et là aussi, un moment de crise, une famine, une épidémie, et qu'est-ce qu'on trouve comme moyen pour garder la communauté unie? Encore une fois, de jouer. Et Hérodote nous dit, il jouait un jour et il mangeait l'autre,
Oui.
et pour oublier, en fait, leurs conditions pénibles.
Alors, le temps passe très vite avec vous, donc on est loin d'avoir dit tout ce qu'on aurait pu dire. Et je voudrais juste pour terminer dire que dans ce que vous avez écrit, car vous avez beaucoup écrit, on pourra peut-être citer le nom d'un livre pour nos auditeurs, que dans les rêves aussi, les jeux ont de l'importance parce que j'ai lu chez vous que, par exemple, pousser un cerceau pouvait signifier que le rêveur connaîtrait des moments pénibles dont il retirerait un profit. Il y a là quelque chose de fascinant et de tellement moderne avec la jonction entre le rêve et la réalité.
Oui, tout à fait. Là aussi, c'est un univers symbolique encore plus complexe parce que, bien évidemment, les rêves présupposent un niveau d'élaboration symbolique très complexe. Et disons, la décodification des rêves qui nous est donnée, par exemple, par cet ouvrage d'Artemidore de Daldis, qui s'appelle donc Onérocriticon, donc l'interprétation des rêves, est aussi une source importante pour décrypter, disons, des règles de jeu, parce que c'est sur la base de ces règles de jeu qu'Artemidore donnait ses interprétations des rêves. Par exemple, il y a, lorsqu'il parle du fait de rêver d'un astragal, d'un osselet, qu'est-ce que cela signifie? Bah, dépend de la personne qui rêve.
Oui.
Si c'est un enfant qui rêve de jouer avec des osselets, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de crainte à avoir, parce qu'en fait, les enfants, nous dit Artemidore, ont l'habitude de jouer avec ces objets, donc ces osselets, ces objets. Mais si c'est un adulte qui rêve de jouer avec un osselet,
Donc là, c'est
ça, c'est un très
mauvais.
mauvais
Oui,
signe.
oui, oui.
C'est un très mauvais signe parce que c'est un objet qui en fait nous vient d'un corps d'un animal mort. Et donc, ça pourrait,
Eh
disons,
oui.
laisser penser que la mort ou quelque chose de très, très mauvais pourrait arriver à la personne qui en a rêvé.
Alors, il va falloir s'arrêter, c'est bien dommage, mais évidemment, tout ça est passionnant. Je vais simplement dire que j'ai appris aussi avec vous qu'un cerceau n'est pas forcément un jeu féminin, hein, comme on pourrait
Non.
l'imaginer, et qu'il y a des distorsions entre les façons de voir les jeux avant et aujourd'hui. Quel est le titre de livre ou d'article que vous nous recommanderiez pour terminer l'émission, pour mieux vous comprendre?
Oui,
Votre.
oui,
Oui.
je dirais que le livre de. On a publié un livre en 2021
Oui.
qui s'appelle Jouer dans l'Antiquité classique. Et c'est un livre qui est édité par les Presses universitaires de Liège et qui est une collection d'essais avec un essai de moi aussi et qui est véritablement une sorte d'introduction avec des études rigoureuses et modernes sur les différentes facettes de l'univers ludique. Donc, c'est un livre de 2021 dans la collection Jo Play Spiel chez les Presses universitaires de Liège.
Très
Ça
bien.
s'appelle Jouer dans l'Antiquité classique. Voilà.
Parfait. Merci beaucoup, Marco. Bon courage pour tout ce que vous faites et
Merci
pour
à
tout ce
vous.
que vous
Merci.
vivez en ce moment. Et j'espère qu'un jour, on
Merci.
pourra vous inviter à Nîmes. Merci beaucoup. Au
Merci,
revoir.
avec plaisir. Merci, au revoir.